cafouillage au niveau des transitions, chers auditeurs. Mais merci à vous, en tout cas, l'équipe d'Il était une science, Léo, Rémi et Pauline. Et justement, Rémi, eh bien, il reste en plateau avec vous.
Oui.
Puisque l'on passe, semble-t-il, de contraire à contraire, on passe de la science à la littérature. C'est l'heure d'écouter des textes, c'est l'heure des yeux ont des oreilles.
Oui.
Tu la trouves jolie?
Oui. Très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes mes genoux aussi?
Oui. J'aime beaucoup tes genoux.
Tu vois mon derrière dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses?
Oui. Très.
Aime les fesses de Brigitte Bardot. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro des Yeux ont des oreilles, et cette fois en direct. Aujourd'hui, en compagnie d'Héloïse et de Rémi, nous vous lirons des textes érotiques, dans toute leur sensualité, dans toute leur passion joviale, mais aussi dans toute leur inquiétude. Attention donc aux oreilles sensibles qui pourraient parfois être émues par ce que nous allons lire. Et je commencerai par une citation du manuel de civilité de Pierre Louis, qui sera notre fil rouge pendant cette émission. Je cite, « Ne dites pas « les romans honnêtes m'emmerdent », dites « je voudrais quelque chose d'intéressant à lire ». Intéressons-nous donc à ce que va nous lire Héloïse dans un registre beaucoup plus retenu et bucolique. Bonjour Héloïse.
Bonjour. Au détroit fougueux de la vie, dès que s'épanche en nous la semence première, le jour de sa maturation, de l'extérieur confluent les images de divers corps, promesses d'un beau visage et d'un teint éclatant, qui excitent les régions gonflées par la semence. Ainsi, dans l'illusion d'avoir consommé l'acte, on la répand à grand flot, souillant ses vêtements. Elle est sollicitée en nous, cette semence, dès que l'âge adulte fortifie nos organes. Or, la cause de l'excitation variant selon les êtres, seul l'homme provoque en l'homme lui-même une semence. À peine chassée de ses propres demeures, elle descend de tout le corps à travers l'organisme, dans certaines régions des nerfs vient se concentrer, excitant aussitôt les parties génitales. Irritée, elle s'enfle de semence et l'on veut la lancer vers l'objet auquel tend la passion funeste. L'esprit vise le corps qui le blessa d'amour, car nous tombons toujours du côté de la plaie, et le sang gicle vers celui qui nous porta le coup, couvrant, s'il est proche, l'ennemi de rouge liqueur. Ainsi, de l'homme atteint par les traits de Vénus, que lui lance le garçon aux membres féminins, ou la femme, dont tout le corps darde d'amour, il tend vers qui le frappe et brûle de l'étreindre, de jeter la liqueur de son corps dans le sien, car son désir muet lui prédit le plaisir. Voilà pour nous, Vénus, voilà ce qu'on nomme l'amour, voilà cette douceur quand nos cœurs, goutte à goutte, Vénus a distillé. Puis vient le froid souci. Que l'aimé soit absent, ces images pourtant sont présentes, son nom hante et charme l'oreille. Mais il convient de fuir sans cesse les images, de repousser ce qui nourrit notre amour, de tourner ailleurs notre esprit et de jeter, en toute autre personne, le liquide amassé, au lieu de le garder, au même amour voué, et de nous assurer la peine et la souffrance. À le nourrir, l'abcès se ravive et s'incruste. De jour en jour, croît la fureur. Le mal s'aggrave, si de nouvelles plaies n'effacent la première. Si tu ne viens confier, au cours d'autres voyages, le sang des plaies vives à la Vénus volage et ne transmet ailleurs les émois de ton cœur. Fuir l'amour n'est pas se priver des joies de Vénus. C'est au contraire en jouir sans payer de rançon. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Lucrèce et de son De Rerum Natura. Donc Lucrèce, hein, l'auteur latin qui fut redécouvert très tardivement au XVe siècle avec le Poge. Donc massivement lu, mais en cachette, car censuré par la morale chrétienne. Et c'est cette même morale chrétienne qui va me faire reprendre Pierre-Louis. Une petite fille qui s'éveille doit avoir complètement fini de se branler lorsqu'elle commence sa prière. Et c'est bien de prière et de religion dont il sera question avec Rémi.
Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galaad. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui pestent au milieu des lys. Avant que le jour se fraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de Myre et à la colline de l'encens. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, le myrrhe et l'aloès avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, Othon, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Cantique des Cantiques, chapitres 4 et 5. N'envoyez pas votre godemiché à la mercière pour y faire poser des rubans. La sentence annonce fort bien l'extrait que Mathias va vous lire, extrait d'un érotisme toujours très feutré, mais où point, sous la rigueur et la chasteté, l'ombre d'un petit fétichisme.
Les palissades étaient fort hautes, et il y en avait encore derrière, pour empêcher qu'on ne pût entrer, en sorte qu'il était assez difficile de se faire un passage. Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet. Toutes les fenêtres en étaient ouvertes. Et, en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rongea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud, et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns, et Monsieur de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à Monsieur de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis du tableau du siège de messe où était le portrait de Monsieur de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. On ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment. Voir, au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait. C'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Vous aurez reconnu la fameuse scène des palissades de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et on va continuer avec Pierre-Louis. Quand vous aurez perdu votre pucelage, ne vous adressez point à Antoine de Padoue pour le retrouver. Saint Antoine de Thébaïde a beaucoup médité sur les questions sexuelles, mais son homonyme ne s'y complaît pas. Car le plus grand et le plus fort des amants, c'est Dieu. Et je vous invite à écouter Rémi, qui va vous lire un extrait rempli d'un mysticisme pénétrant.
Je sentis mon âme embrasée d'un très ardent amour de Dieu. Cet amour était évidemment surnaturel, car je ne savais qu'il allumait ainsi en moi, et je n'y avais contribué en rien. Je me voyais mourir du désir de voir Dieu, et je ne savais où je devais chercher cette vie, si ce n'est dans la mort. Les transports de cet amour, sans égaler ni la véhémence ni le prix de ceux dont j'ai parlé autre part, étaient tels néanmoins que je ne savais que devenir. Rien ne répondait à mes vœux, j'étais comme hors de moi, et il me semblait véritablement que l'on m'arrachait l'âme. Ô mon Seigneur, de quel souverain artifice, de quelle délicate industrie vous usiez à l'égard de votre misérable esclave. Vous vous teniez caché en moi, et votre amour, me poursuivant sans relâche, me faisait goûter une mort si délicieuse que mon âme eût voulu n'en jamais sortir. Tandis que j'étais dans cet état, voici une vision dont le Seigneur daigna me favoriser à diverses reprises. J'apercevais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il n'était point grand, mais petit et très beau. À son visage enflammé, on reconnaissait un de ces esprits d'une très haute hiérarchie, qui semble n'être que flamme et amour. Je voyais dans les mains de cet ange un long dard qui était d'or, et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu. De temps en temps, il le plongeait, me semblait-il, au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser tout embrasé d'amour de Dieu. La douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure, mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur que je ne pouvais ni en désirer la fin, ni trouver de bonheur hors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, mais toute spirituelle, quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu, et même à un haut degré. Il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave. Les jours où je me trouvais dans cet état, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir, ne point parler, mais m'absorber délicieusement dans ma peine, que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées. Telle était la faveur que le divin maître m'accordait de temps en temps, lorsqu'il lui plut de m'envoyer ses grands ravissements, contre lesquels, même en présence d'autres personnes, toutes mes résistances étaient vaines. Ainsi, j'eus le regret de les voir bientôt connus du public. Sainte Thérèse d'Avila, dans son autobiographie. Plus récemment, Pierre-Louis s'ajoutait « Si vous sucez un monsieur, avant de partir communier, gardez-vous bien d'avaler son foutre. Vous ne seriez plus à jeun, comme il faut que vous le soyez. »
De l'extase religieuse de Thérèse au désir brûlant de l'aimer en chair et en os, il n'y a qu'un pas. Et c'est bien de ce désir-là que nous allons évoquer dans le poème que va nous lire Rémi.
« Baise-moi encore, rebaise-moi et baise !» Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu, ça, que ce mal j'apaise, en t'en donnant dix autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or double vie et chacun en suivra. Chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folies. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Louise Labbé. N'enculez pas de force la femme de chambre avec un manche à balai, vous pourriez lui faire très mal. Après cette maxime, quoi de plus naturel que de continuer avec Sade ? Avec le texte que Louise va nous lire, l'érotisme entre dans une véritable dynamique de séduction et de libertinage.
Voluptueux de tous les âges, de tous les sexes, c'est à vous seul que j'offre cet ouvrage. Nourrissez-vous de ses principes, ils favorisent vos passions. Et ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effraient, ne sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l'homme aux vues qu'elle a sur lui. N'écoutez que ces passions délicieuses. Leur organe est le seul qui doit vous conduire au bonheur. Femme lubrique, que la voluptueuse Saint-Ange soit votre modèle. Méprisez, à son exemple, tout ce qui contrarie les lois divines du plaisir qui l'enchaînèrent toute sa vie. Jeune fille, trop longtemps contenue dans les liens absurdes et dangereux d'une vertu fantastique et d'une religion dégoûtante, imitez Saint-Eugénie. Détruisez, foulez aux pieds, avec autant de rapidité qu'elle, tous les préceptes ridicules inculqués par d'imbéciles parents. Et vous, aimable débauchée, vous qui, depuis votre jeunesse, n'avez plus d'autres freins que vos désirs et d'autres lois que vos caprices, que le cynique Dolmancé vous serve d'exemple, allez aussi lent que lui. Si, comme lui, vous voulez parcourir toutes les routes de fleurs que la lubricité vous prépare, convainquez-vous à son école que ce n'est qu'en étendant la sphère de vos goûts et de ses fantaisies que ce n'est qu'en sacrifiant tout à la volupté que le malheureux individu connu sous le nom d'homme et jeté malgré lui sur ce triste univers peut réussir à semer quelques roses sur les épines de la vie. Donc vous l'aurez, je pense, reconnu, il s'agit ici de Sade et de son prologue de la philosophie dans le boudoir. Sade est un libertin, un athée, un provocateur, et nous sommes en 1795 et cela ne passe assurément pas. Qu'à cela ne tienne, Sade attaque systématiquement l'opinion dominante pour défendre le vice au nom de la nature et de la libération de l'homme. Et cela me conduit tout naturellement avec Pierre Louis. Ne dites pas « les romans honnêtes m'emmerdent ». Dites, je voudrais quelque chose d'intéressant à lire. Et c'est justement quelque chose d'intéressant à lire que va nous proposer Mathias. Un érotisme vu non seulement comme une conquête, mais aussi comme une guerre entre deux grands célèbres libertins.
Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet qu'un conquérant ait jamais pu former. Que me proposez-vous ? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu ? Ne connaît rien, qui, pour ainsi dire, me serait livré sans défense ? Qu'un premier homme ne manquera pas d'enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour ? 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier, ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d'un saint respect et vous direz avec enthousiasme « voilà l'homme selon mon cœur ». Vous connaissez la présidente Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. Vous saurez que le président est en Bourgogne à la suite d'un grand procès. J'espère lui en faire perdre un plus grand. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin au soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste whist devait être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduite ici pour son bonheur et pour le mien. Insensé. Je regrettais 24 heures que je sacrifiais à des égards d'usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris. Heureusement, il faut être 4 pour jouer au whist. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'ai consenti. Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment. Combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc, depuis 4 jours, livré à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles. Mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée, j'y pense le jour et j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux. Car où ne mène pas un désir contrarié ? Ô délicieuse jouissance, je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal, nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves. J'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m'amène naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir mon pardon et j'y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie, sans rancune. C'est ici la 4e lettre des liaisons dangereuses du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Et cela me ramène à Pierre-Louis. Vous pouvez demander à monsieur le président de la République une mèche de ses cheveux pour vous rappeler ses faveurs. Mais il serait indiscret de lui couper la pine pour conserver un souvenir de lui. Car l'érotisme peut être tranchant, la femme érotique gagne sa liberté et peut-être inquiétante. Écoutez donc Héloïse vous en parler.
La destinée de la femme est d'être comme la chienne, comme la louve. Elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. C'est visiblement outrager la destination que la nature impose aux femmes que de les enchaîner par le lien absurde d'un hymen solitaire. Espérons qu'on ouvrira les yeux et qu'en assurant la liberté de tous les individus, on n'oubliera pas le sort des malheureuses filles. Mais si elles sont assez à plaindre pour qu'on les oublie, que, se plaçant d'elles-mêmes au-dessus de l'usage et du préjugé, elles foulent hardiment aux pieds les fers honteux dont on prétend les asservir, elles triompheront bientôt alors de la coutume et de l'opinion. L'homme devenu plus sage, parce qu'il sera plus libre, sentira l'injustice qu'il y aurait à mépriser celles qui agiront ainsi, et que l'action de céder à la nature, regardée comme un crime chez un peuple captif, ne peut plus l'être chez un peuple libre. Pardon de la légitimité de ses principes, Eugénie, et brise tes fers à quelque prix que ce puisse être. Méprise les vaines remontrances d'un père, d'une mère imbécile, à qui tu ne dois légitimement que de la haine et du mépris. Si ton père, qui est un libertin, le désire, à la bonne heure, qu'il jouisse de toi, mais sans t'enchaîner, brise le joug s'il veut t'asservir. Plus d'une fille ont agi de même avec leur père. Fou, en un mot, fou. C'est pour cela que tu es mise au monde. Aucune borne à tes plaisirs que celle de la force ou de tes volontés. Aucune exception de lieu, de temps et de personne. Toutes les heures, tous les endroits, tous les hommes doivent servir à tes voluptés. La continence est une vertu impossible dont la nature, violée dans ses droits, nous punit aussitôt par mille malheurs. Tant que les lois seront telles qu'elles sont encore aujourd'hui, usons de quelques voiles. L'opinion nous y contraint. Mais dédommageons-nous en silence de cette chasteté cruelle que nous sommes obligés d'avoir en public. Sade ici, toujours bien sûr. Quelques jeunes filles trop surveillées achètent une petite sainte vierge en ivoire poli et s'en servent comme d'un godemiché. C'est un usage condamné par l'Église. Et il y en aura beaucoup d'autres des usages condamnés par l'Église auxquels certains pourtant auront beaucoup de mal à résister. Et ce n'est pas Rémi qui me contredira.
Cependant, elle avait levé son linge de cou et avait mis une de mes mains sur sa gorge. Elle se taisait, je me taisais aussi, elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m'invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche, et je lui obéissais. Je ne crois pas qu'il y eût du mal à cela, cependant son plaisir s'accroissait. Et comme je ne demandais pas mieux que d'ajouter à son bonheur d'une manière innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu'elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l'extrémité de mes pieds jusqu'à ma ceinture, me pressant tantôt un endroit, tantôt un autre. Elle m'exhortait en bégayant et d'une voix altérée et basse à redoubler mes caresses. Je les redoublais. Enfin, il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort. Ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit avec violence, ses lèvres se pressèrent d'abord, elles étaient humectées comme d'une mousse légère, puis sa bouche s'entr'ouvrit, et elle me parut mourir en poussant un profond soupir. Je me levai brusquement, je crus qu'elle se trouvait mal, mais je voulais sortir, appeler. Elle entr'ouvrit faiblement les yeux et me dit d'une voix éteinte « Innocente, ce n'est rien, qu'allez-vous faire, arrêtez ?» Je la regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les yeux. Elle ne pouvait plus parler du tout. Elle me fit signe d'approcher et de me replacer sur ses genoux. Denis Diderot, la religieuse. Si vous êtes assise sur le coin d'une chaise, ne vous remuez pas trop d'avant en arrière. Cela vous donnerait des distractions. Des distractions, Rousseau en manque cruellement, semble-t-il, dans sa solitude. C'est ce que s'apprête à nous faire entendre Mathias.
J'étais revenu d'Italie, non tout à fait comme j'y étais allé, mais comme peut-être jamais à mon âge on en est revenu. J'en avais rapporté non ma virginité, mais mon pucelage. J'avais senti le progrès des ans. Mon tempérament inquiet s'était enfin déclaré, et sa première éruption, très involontaire, m'avait donné sur ma santé des alarmes qui peignent mieux que toute autre chose l'innocence dans laquelle j'avais vécu jusqu'alors. Bientôt rassuré, j'appris ce dangereux supplément qui trompe la nature et sauve aux jeunes gens de mon humeur beaucoup de désordre au prix de leur santé, de leur vigueur et quelquefois de leur vie. Ce vice que la honte et la timidité trouvent si commode a de plus un grand attrait pour les imaginations vives, c'est de disposer pour ainsi dire à leur gré de tout le sexe et de faire servir à leur plaisir la beauté qui les tente sans avoir besoin d'obtenir son aveu. Séduit par ce funeste avantage, je travaillais à détruire la bonne constitution qu'avait rétablie en moi la nature et à qui j'avais donné le temps de se bien former. Qu'on ajoute à cette disposition le local de ma situation présente, logé chez une jolie femme, caressant son image au fond de mon cœur, la voyant sans cesse dans la journée, le soir entourée d'objets qui me la rappellent, couchée dans un lit où je sais qu'elle a couché, que de stimulant. Tel lecteur qui se les représente me regarde déjà comme à demi-mort. Tout au contraire, ce qui devait me perdre fut précisément ce qui me sauva, du moins pour un temps. Enivré du charme de vivre auprès d'elle, du désir ardent d'y passer mes jours, absente ou présente, je voyais toujours en elle une tendre mère, une sœur chérie, une délicieuse amie, et rien de plus. Je la voyais toujours ainsi, toujours la même, et ne voyais jamais qu'elle. Son image, toujours présente à mon cœur, n'y laissait place à nul autre. Elle était pour moi la seule femme qui fût au monde, et l'extrême douceur des sentiments qu'elle m'inspirait, ne laissant pas à mes sens le temps de s'éveiller pour d'autres, me garantissait d'elle et de tout son sexe. En un mot, j'étais sage parce que je l'aimais. C'était donc un passage célèbre des confessions de Rousseau, où Jean-Jacques avoue ses pratiques masturbatoires. Et je citerai encore une fois Pierre-Louis, « Ne dites pas « il a joué dans ma gueule et moi sur la sienne », dites « nous avons échangé quelques impressions ». Car l'amour sensuel est une rencontre, et cette rencontre n'est pas toujours entre un homme et une femme, loin s'en faut. L'érotisme s'ouvre à d'autres contrées, à des situations complexes qui ne sont pas la norme. Et donc je vais continuer avec un autre extrait, hors norme. La tentative auprès de Meriem, cet effort de normalisation, était restée sans lendemain, car il n'allait point dans mon sens. À présent, je trouvais enfin ma normale. Plus rien ici de contraint, de précipité, de douteux, rien de cendreux dans le souvenir que j'en garde. Ma joie fut immense et telle que je ne la puisse imaginer, plus pleine si de l'amour s'y fût mêlé. Comment eût-il été question de l'amour, comment eussé-je laissé le désir disposer de mon cœur? Mon plaisir était sans arrière-pensée et ne devait être suivi d'aucun remords. Mais comment nommerais-je alors mes transports à serrer dans mes bras, nu ce parfait petit corps sauvage, ardent, lascif, ténébreux? Je sais bien que certaines précisions que j'apporte ici prêtent à sourire, il me serait aisé de l'omettre ou de la modifier dans le sens de la vraisemblance, mais ce n'est pas la vraisemblance que je poursuis, c'est la vérité, et n'est-ce pas précisément lorsqu'elle est le moins vraisemblable qu'elle mérite le plus d'être dite? Pensez-vous sinon que j'en parlerai, Gide, si le grain ne meurt?
Alors merci à vous, c'était Les yeux ont des oreilles sur Transistor.